Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse. Bonjour amis auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle chronique consacrée aujourd'hui aux droits de l'homme en Algérie. Pour en parler, j'accueille Jacques Fontaine, enseignant-chercheur, retraité de l'université de Besançon, grand connaisseur, spécialiste reconnu de l'Algérie et du Maghreb. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors Jacques, depuis le mois de février 2019, le pays est traversé par une véritable lave de fond qu'on appelle le Irak. Que signifie ce terme Irak, Jacques ?
Oh, c'est assez simple. Irak, c'est un mot arabe bien connu qui veut dire mouvement. Alors, ça a été utilisé en Algérie, ça a été utilisé dans d'autres pays également. Et c'est la première fois que c'est utilisé pour un mouvement politique en Algérie, mais ça a été utilisé dans d'autres pays pour des mouvements politiques aussi. J'insiste là-dessus. Et, au départ... C'est lié au refus de la candidature pour un cinquième mandat de Bouteflika, qui en 2019 est une momie encore vivante, mais c'est à peu près tout. Hein, il a fait deux ou trois AVC, il était soigné. Bon. Et c'est aussi, Bouteflika est aussi le symbole d'un pouvoir autoritaire, détaché des aspirations de la population, etc. etc. Donc, la population algérienne se met en mouvement dès l'annonce de la candidature de Bouteflika à cinquième mandat.
Vous avez parlé d'autres mouvements, Jacques, c'est-à-dire qu'il y a eu les printemps arabes, hein, j'y
Bien
pense.
Sûr.
Et pourquoi ce décalage avec les printemps arabes ?
Disons, il y a eu une première vague de printemps arabes en 2011, il y en a une deuxième en 2019, parce qu'il n'y a pas que l'Algérie, il y a le Soudan, il y a le Liban... en particulier. Donc, il y a une deuxième vague. Alors, pourquoi le décalage de l'Algérie avec la Tunisie, le Maroc, etc., etc. Je crois que c'est lié à l'histoire spécifique de l'Algérie. Pour certains Algériens, le premier mouvement démocratique du monde arabe, c'est 88 en Algérie, quand il y a eu ces émeutes, dont je n'ai pas le temps de parler ici, mais qui ont fait des centaines de morts. Et qui était une insurrection populaire contre un pouvoir autoritaire. Donc, chaque pays, du fait de son histoire particulière, a sa façon de réagir.
Est-ce qu'ils avaient eu à solder un passé meurtrier aussi
Le problème de l'Algérie, c'est effectivement la guerre civile qui a duré pendant 10 ans, de 1991 à 2000, grosso modo. Hein, avec une violence extrême qui a fait 150 000 morts. Hein, c'est considérable. Et donc la génération qui a subi, et qui a subi non seulement les morts, les blessés, les emprisonnements, les enlèvements, les arrestations, les viols aussi, hein, d'hommes et de femmes, il y a eu une violence considérable. Donc la génération qui a subi ça ne pouvait pas se remettre en mouvement 10 ans après, en 2011. Et il a fallu attendre donc que le temps passe, que les cicatrices de cette guerre civile qui n'a jamais été soldée, il n'y a jamais eu de processus de réconciliation, comme par exemple en Afrique du Sud. Hein. Donc il fallait attendre que le temps passe, qu'une nouvelle génération arrive, et comme l'Algérie est un pays qui a une jeunesse importante, la génération de ceux qui sont nés pendant la guerre civile, ou tout de suite après, ils sont arrivés à 18 ans, 20 ans, 25 ans, justement, à la fin des années 2010, donc 2018-2019. Et cette génération-là n'a connu qu'un seul président de la République, Bouteflika, qui a été président à partir de 1999, et qu'il est resté jusqu'en 2019, 20 ans. 20 ans, c'est long. Et Bouteflika est devenu...
Donc cette jeunesse a été le moteur donc, du Irak ?
La jeunesse a été le moteur du Irak.
Ouais.
Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est un mouvement qui touche tout le pays, toutes les classes d'âge. Et je suis allé, il y a 18 mois, en Algérie, voir voir ce qui se passait avec des camarades. C'était un sentiment extraordinaire quand on était à Alger ou à Béjaïa. Béjaïa qui est une ville de 200 000 habitants. Alger, c'est une ville de 4 millions d'hommes, hein, d'hommes et de femmes, évidemment, et d'enfants. Donc
c'est un mouvement vaste qui est dans tout le pays. Alors
c'est un mouvement énorme. Oui. Il y a eu des manifestations à Alger avec 1 million de personnes.
Donc impulsé par la jeunesse et qui raccroche d'autres wagons.
Et qui raccroche d'autres wagons, parce que finalement toute la population est là. Et quand on est dans les rues d'Alger avec l'Irak, le vendredi au moment des manifestations, on voit aussi bien des gens en costume trois pièces ou des dames en tailleur que des femmes en hijab. Des hommes avec le camis, qui est le vêtement des islamistes, des gens en jean, des femmes en jupe ou en pantalon, ou parfois avec des gamins sur les épaules. Les hommes ont des gamins sur les épaules, les femmes ont des bébés dans les bras. C'est extraordinaire.
Mais alors Jacques, vous écrivez que ce n'est pas seulement un mouvement, mais c'est également une idée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Disons, dans un premier temps, c'est un mouvement. Mais après, ça devient un concept.
Toutes ces strates de population.
Avec toutes ces strates de population, des jeunes, des vieux, des anciens combattants de la guerre de libération qui ont 80 berges, des anciennes combattantes, des anciennes moudjahidates, même une ancienne condamnée à mort des tribunaux français pourra participer en 57 à la pose de bombes au moment de la bataille d'Alger déclenchée par Massu, sur ordre du gouvernement français, naturellement. Donc c'est une réunion de toute la population. Le peuple se retrouve. Le peuple n'a pas le droit de manifester en Algérie. Bouteflika, une des premières décisions qu'il a prises quand il est arrivé au pouvoir, c'est interdire les manifestations à Alger. Et là, pour la première fois, on dépasse cette interdiction et on se réapproprie. Donc non seulement c'est un mouvement.
Donc c'est le peuple.
C'est le peuple qui est dans la rue. C'est le peuple qui manifeste. C'est le peuple qui reprend son rôle politique. Et c'est en ce sens-là que cette reprise de rôle politique du peuple est une idée, est un concept nouveau.
Donc c'est la réappropriation par le peuple des revendications.
C'est la réappropriation de l'espace.
De l'espace.
Hein, de l'espace urbain. Et ça touche toutes les villes d'Algérie, y compris les villes de 10 ou 15 000 habitants. C'est-à-dire c'est des centaines de villes qui sont touchées, toutes les classes sociales, toutes les classes d'âge, qui fraternisent. Et même les islamistes avec camis, qu'il y a quelques années je croisais dans les rues d'Alger lors d'un précédent voyage, et qui regardaient l'étranger que je suis, le Roumi, le Fransaoui, avec un regard parfois peu amène, là ils étaient décontractés. C'est la première fois que je voyais des islamistes décontractés, qui souriaient.
Alors justement, par rapport à ce sourire, là on a parlé d'un mot-clé qui était le Hirak, et il y a un deuxième mot-clé dont vous m'avez parlé qui est la Silmiya.
Silmiya, ça veut dire calme, tranquille. Et c'est un mot qu'on a retrouvé, qui fait partie du vocabulaire traditionnel arabe, bien entendu. Hein, tout le monde est calme ou est énervé, enfin bon... Mais c'est un mot qui, politiquement, a une signification dès le premier printemps arabe de 2011. En particulier, les manifestations de la place Tahrir au Caire, Tahrir qui signifie place de la liberté, si je ne me trompe pas, utilisent le terme Silmiya. Alors que justement, ces manifestations ne sont pas toujours très tranquilles, mais c'est un autre débat, je ne vais pas entrer là-dedans. Et c'est calme, tranquille. C'est-à-dire que derrière ce terme, il y a une idée qui est fondamentale et qu'on trouve dans tous les printemps arabes. C'est l'idée de la non-violence.
Et alors, est-ce que les femmes y sont pour quelque chose?
Tout le monde y est pour quelque chose. Les femmes prennent leur part. Et c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois. Hein, les énormes manifestations de décembre de 1961 qui ont montré définitivement de quel côté était le peuple algérien. C'est-à-dire pour l'indépendance, déjà on le savait avant, mais là il y a une démonstration de masse où les femmes ont joué un rôle important. Donc les femmes reprennent leur rôle de militantes. Les femmes, elles ne sont pas à côté du Irak, elles sont le Irak. Et ça c'est ce que disent les militantes du Irak. Nous sommes le Irak comme les hommes, nous sommes le Irak. Il n'y a pas de distinction. Nous sommes un peuple uni, nous reprenons le contrôle de notre espace, nous reprendrons le contrôle de la politique. Et je crois que là, c'est vraiment un mouvement de fond.
Et alors, quelles sont les répercussions sur le pouvoir? Est-ce qu'il y a, des répercussions qui sont favorables? Comment ça va tourner, en plus avec la situation sanitaire actuelle?
Alors, il y a deux choses. Les répercussions sur le pouvoir, il y a eu des victoires du Irak.
Oui.
Je dis bien des victoires. Parce que l'Irak, c'est toute une série de batailles. Première bataille, ça a été le retrait de la candidature de Bouteflika. Deuxième, ça a été le fait que l'élection présidentielle a été repoussée deux fois. Mais cette élection a eu lieu. Et ça, c'est une victoire pour le pouvoir réel. Parce que le pouvoir réel en Algérie, c'est les militaires. Hein, c'est pas Bouteflika, était...
Donc il y a eu
devenu une marionnette, mais même au départ, Bouteflika était l'homme des militaires.
Donc une brèche a été créée.
Une brèche a été créée, c'est extrêmement important.
Alors est-ce qu'il y a des personnalités, des idées structurées qui peuvent s'engouffrer dans cette brèche? Est-ce qu'il y a des partis qui sont en train de se constituer? Comment ça se passe?
Les partis ont été complètement discrédités par le pouvoir parce que tous sont allés à la soupe.
Presque. Mais des nouveaux partis, je dirais.
Pour l'instant, il n'y a pas de création de nouveaux partis. Et c'est une caractéristique de tous ces mouvements, y compris en Europe, voire aux États-Unis, avec le mouvement d'il y a quelques années d'occupation de Wall Street aux États-Unis, l'occupation des places en France, d'une certaine façon, certains aspects du mouvement des Gilets jaunes, tout ça sont des mouvements sans leader. C'est-à-dire qu'on est, je pense, dans une nouvelle phase politique. Jusqu'à maintenant, la politique était structurée par des partis. Aujourd'hui, ces partis, pour diverses raisons, ayant fait plus ou moins faillite, certains totalement, d'autres moins, je ne vais pas ici faire une analyse de la faillite des partis français, mais les partis algériens ont tous fait faillite. Donc, on a un mouvement qui est un mouvement de base, qui veut prendre son destin en main, qui ne veut pas se donner de leader, même s'il y a des personnalités qui sont plus connues que d'autres, et ce qui pose évidemment un problème politique. Parce qu'il y a des élections qui s'approchent.
Oui.
En principe, au mois de juin, des élections législatives. Et que d'autre part, il y a eu une grosse défaite du Irak, qui est la crise sanitaire, pour laquelle ils ne sont pour rien, évidemment.
Bien sûr.
Mais cette crise sanitaire a été utilisée, manipulée par le pouvoir, pour justement développer la répression, emprisonner toutes les personnes émergentes, à un moment ou à un autre. Des responsables d'associations, des responsables de partis politiques qui pouvaient apparaître comme pouvant prendre une place de leader ont été emprisonnés pour 6 mois, pour 1 an. Des journalistes ont été emprisonnés, etc. etc. Et donc il y a une atteinte aux droits de l'homme qui est permanente. Même si en même temps il y a une certaine liberté de la presse. Hein, parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir.
Donc on est à un point de bascule où on ne sait pas de quel côté donc cela va tourner en ce moment.
Pour l'instant, moi je pense que le pouvoir garde des cartes très importantes en main. Le problème c'est que se passera-t-il à terme? Parce que le pouvoir aussi bien qui est symbolisé par le chef d'état-major de l'armée, qui est un vieux monsieur qui doit avoir près de 80 ans, et par le président de la République qui était très mal élu en décembre 2019.
Oui, parce que c'est un petit peu un semblant de démocratie, parce qu'il y a des élections oui. avec une participation qui est extrêmement faible, c'est ça?
Oui, mais cette participation extrêmement faible ne donne pas de légitimité, mais donne une légalité au pouvoir. C'est ce que le pouvoir cherche, la légitimité, voilà, c'est pas son souci. Donc, aujourd'hui, on a une situation dont il est très très difficile de prévoir l'issue, mais il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, Tebboune, président de la République qui a 76 ou 77 ans, le chef d'état-major de l'armée qui a le même âge, ils ne sont pas éternels, et on l'a bien vu avec l'ancien chef d'état-major de l'armée qui un jour a fait une crise cardiaque, 8 jours après l'élection de Tebboune, qui était son poulain. Donc comment est-ce que le pouvoir va se restructurer? Moi, j'en sais rien, parce que toutes les armées sont des grandes muettes, mais l'armée algérienne est encore plus muette que les autres.
On va terminer par cette question, mais on va conserver l'espoir. Et je vous remercie beaucoup pour cette information, cet appui que vous nous avez amené, Jacques. Et je vous dis à une prochaine fois.
Merci de votre accueil.
Au revoir. À nos auditeurs.